moi, la créolisation, c'est le métissage qui produit de l'imprévisible.
Édouard Glissant.
Moi, je trouve qu'une société qui fonctionne avec des diversités est une société riche. Par exemple, les sociétés grecques et la société romaine, dans ce sens, étaient riches. Parce que les Romains n'exigeaient pas qu'on renonce. D'ailleurs, ils ont même adopté des dieux des autres cultures. Isis est devenue une déesse importante à Rome. Ils ne pensaient pas qu'il fallait se fondre dans un moule pour être acceptable par une société. Les États-Unis auraient pu être l'exemple d'une telle société. Parce qu'aux États-Unis, vraiment, il y a des composantes qui sont absolument hétérogènes. Et quand vous êtes dans les rues de New York, personne ne peut vous dire « rentre chez toi ». Parce que tout le monde vient d'ailleurs. Personne n'a le droit à New York d'arrêter quelqu'un dans la rue et de lui dire « rentre chez toi ». Parce que la personne peut lui dire « mais toi aussi, rentre chez toi, tout de suite ». Sauf qu'aux États-Unis, malheureusement, ce que j'appelle la créolisation ne marche pas encore. C'est une juxtaposition d'ethnies différentes, mais qui ne sont pas encore créolisées entre elles. Nous pouvons concevoir que dans une société donnée, un étranger dans cette société puisse participer à la vie de la société sans renoncer à ce qu'il est, à ce qu'il a été à l'origine. C'est une des monstruosités de la situation en France qu'on exige des gens qui viennent de l'étranger qu'ils soient intégrés, c'est-à-dire qu'ils se fusionnent.
L'intégration, dit-on, n'est pas une voie moyenne entre l'insertion et l'assimilation, mais un processus spécifique par lequel il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales, en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité. Cependant, cette notion, qui hante aujourd'hui le lexique politique et social, demande quelques éclaircissements du point de vue de son émergence récente. Pourquoi ? Parce que l'intégration apparaît aujourd'hui comme une exhortation insistante de la part de la société à l'adresse des jeunes, des exclus et des populations immigrées. Dans un contexte où la dénégation des inégalités de fait au nom de la proclamation républicaine de l'égalité de droit n'a jamais été aussi marquée.
Réfléchir sur l'intégration, ça veut peut-être dire à quoi s'oppose l'intégration. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens désintégrés dans nos sociétés ? Il n'y a personne dans nos sociétés qui vit, existe, hors de rapports sociaux.
Laurent Bonelli.
Je crois que ça c'est très important parce que la naissance même du terme d'intégration, inclusion, exclusion, ne sont pas des termes qui apparaissent comme ça, de manière neutre, dans un débat politico-scientifique. La question de l'apparition de la notion d'exclusion même, c'est-à-dire qui suppose qu'il y a des gens, des inclus dans la société et des exclus, c'est quelque chose qui apparaît dans les années 80, 90, après une grande période où le débat intellectuel français, le débat politique, a été marqué par des questions autour de la lutte des classes. Et justement, on a tout un tas de gens issus, en l'occurrence, de la deuxième gauche, hein, c'est toute l'école de sociologie tourénienne notamment, qui invente à ce moment-là des concepts, inclusion, exclusion, qui finalement n'ont sans doute pas d'autre validité que de nier les rapports de domination au sein des rapports sociaux. Si vous pensez les termes en termes d'inclusion et d'exclusion, il y aurait des gens dans la société, il y aurait des gens hors de la société, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de rapport entre ces gens. Or si, il existe des rapports entre ces gens, et ces rapports, même si le terme paraît tabou aujourd'hui, sont des rapports de domination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui occupent des positions hautes dans la hiérarchie sociale, et des gens qui occupent des positions basses. Et entre ces gens qui occupent des positions hautes et des gens qui occupent des positions basses, il y a des relations de domination. Ces rapports à inclusion et exclusion, c'est finalement la dénégation de ces rapports d'antagonisme de classe. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné toute une dépolitisation du débat politique et du débat scientifique qui consisterait à dire finalement que entre les riches et les pauvres, tout va très bien. On est dans un monde totalement déconflictualisé, dans un monde idyllique quelque part, et finalement le seul problème qui pose à notre société, c'est que certains bénéficient des fruits de la croissance et du développement économique et d'autres moins. Et on aurait entre les deux une relation qui est finalement pas une relation de cause à effet. Et on va développer tout un tas de politiques d'intégration pour essayer de rattraper ce retard d'intégration de l'ensemble finalement de ces populations-là par rapport à une norme idéale, à un modèle idéal qui serait celui des inclus, c'est-à-dire de ceux qui ont. Ben non, la condition pour que certains aient, c'est que les autres n'aient pas, justement. Et qu'entre les deux, si certains n'ont pas, c'est parce que les autres ont.
Si on prend l'angle de la discrimination ethnique ou raciale, on ne résoudra pas les questions sociales et les problèmes sociaux de notre pays. Luttons contre les inégalités sociales. Qu'elle touche Mohamed, Mamadou, David, Fatima, Véronique, c'est pas le problème. Elle touche des gens qui sont malheureux, elle touche des gens qui ont mal dans leurs conditions sociales. Et si on résout ces problèmes-là, alors on améliorera le vivre ensemble. Être français, c'est pas être défini en fonction des origines. Les médias ne le portent pas, ce message-là. Alors après, effectivement, on a des pseudo-débats qui donnent un sentiment qu'on veut faire avancer ces questions, discrimination positive d'un côté, modèle républicain, comme je disais, de l'autre. Mais tout ça est quand même quelque peu stérile. Et sur le terrain, pas grand-chose ne bouge. Être français, c'est quoi être français ? Ça le mérite même à la limite que sur le plan pédagogique, on le redéfinisse à l'école dès le plus jeune âge. C'est quoi être français ? Est-ce que c'est les liens du sang ? Est-ce que ça se définit par un patrimoine culturel ou social ? Est-ce que c'est une volonté d'adhérer à des valeurs universelles ? Est-ce que c'est faire fi des origines en permanence ? Est-ce que c'est nier les origines de ses parents ? C'est quoi être français ? Et moi, cette question-là, je me la suis posée maintes fois en tant que militant. J'ai essayé d'apporter des réponses à des jeunes qui se posaient ces questions, des jeunes qui sont nés sur notre sol, formés par la République républicaine, qui sont d'origine marocaine ou algérienne, et qui vous renvoient dans la figure, moi je ne suis pas français, moi je suis marocain, moi je suis algérien. On voit le malaise profond. Il y a ces jeunes, quand on leur dit, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Tu peux être tout à fait fier de tes origines, des origines de tes parents. Tu peux ne pas faire amnésie ou reniement des origines de tes parents. D'ailleurs, il ne serait pas bon que tu le fasses. Donc, tout en étant fier d'être français, parce que la France, c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie, c'est la République laïque, c'est des valeurs qui sont transcendantales, qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas enfermantes, qui ne sont pas sectaires. Et je crois que si on arrivait sur le plan pédagogique à faire en sorte que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, partagent cette définition-là de ce qu'est la France, de ce que c'est appartenir à la nation française, auraient moins peur de ceux qui sembleraient au demeurant ne pas nous ressembler.
Ces immigrations ont amené chaque fois de nouveaux contingents de populations qui, en s'installant en France, ont fait la France avec tous les Français qui les ont acceptés contre ceux qui n'ont appris à exister qu'à travers un vulgaire papier d'identité qui n'identifie que la médiocrité.
Un papier d'identité qui n'identifie que la médiocrité. Que la médiocrité. Un papier d'identité qui n'identifie que la médiocrité.
Un papier d'identité qui n'identifie que la médiocrité.
Alors imaginez, et à Paris, dans un lycée parisien, deux jeunes nègres qui s'interrogent, est-ce qu'ils s'acceptent comme nègres ? On recevait une éducation qui était une éducation d'aliénés. Ah, oui, et les jeunes de maintenant, ils ne comprennent pas ça. Nous étions dans une situation, je dirais, qui était angoissante. Était angoissante, mais métaphysiquement. Trois questions fondamentales. Premièrement, toi, moi, qui es-tu ? Ouais. Ça vous paraît bizarre, non ? Eh bien, nous sommes posés la question, qui es-tu ? Je suis blanc, je suis noir, je suis intellectuel, je suis martiniquais. Qui suis-je ? Et puis alors, tout de suite après, que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'un homme de couleur avec le fascisme naissant est-ce que n'ont pas un devoir particulier? Que dois-je faire? Et puis enfin, on avait repris quand même la question que posait Kant, mais un laïcisant, il se demandait, que m'est-il permis d'espérer? C'était pas idiot? Il pense à la métaphysique, à notre monde, mais en disant, que m'est-il permis d'espérer, nous pourrions à ce monde-ci. Qu'est-ce qu'un homme de couleur, dans un monde pénétré par les valeurs du racisme, qu'est-ce qu'il peut encore espérer? C'est pour vous dire que la jeunesse de l'époque, notre jeunesse, notre fraction, elle était quand même tourmentée et hantée par des questions qui trouvent encore leurs échos jusqu'à présent. Nous avons tous une très grande conscience de la valeur, je ne dirais pas de la culture, c'est pour moi la culture, mais pour mieux me faire comprendre, des cultures. Autrement dit, je n'ai jamais renié les Latins, je n'ai jamais renié les Grecs, je n'ai jamais renié les Chinois, je n'ai jamais renié l'Inde. Pour moi, c'est tout ça, c'est, je n'ai jamais renié l'Afrique, c'est tout ça, les cultures. Ouais. Alors, nous avons essayé de faire, avec les pauvres moyens que nous avons, essayer d'apprécier ces efforts humains faits dans tous les coins du monde, examiner leur démarche, comment chacun de son côté a essayé de résoudre le problème fondamental, c'est comment rendre la vie vivable, parce que c'est pas si évident, et la mort supportable. Et chacun l'a fait à sa manière. Et bien nous, Antillais, nous avons aussi voulu le faire, en prenant d'ailleurs des leçons et des uns et des autres, parce que je pense que l'espèce humaine est une, et il y a des démarches qui sont singulières.
Pour faire vivre du différent, à l'école en tout cas, il faut reconstruire l'école comme un espace public. À l'intérieur d'elle-même, l'école proroge de la discrimination, mais l'école en soi, plongée dans l'univers de la société, est une des dernières institutions ayant la capacité d'aller à l'encontre des discriminations. Et au premier chef, des discriminations sociales, qui évidemment recouvrent les discriminations socio-ethniques, ou les discriminations culturelles, etc., etc. Quand on parle de l'école de la République, ceux qui sont les tenants, en gros, de l'universel, de la non-reconnaissance du différent, c'est un cadre qui n'a aucun sens si, à l'intérieur, la démocratie ne qualifie pas la réalité des rapports qui sont engagés entre les individus. Donc moi, je serais tenté de dire, ce qui est intéressant dans la République, c'est la démocratie. Alors, si on prend l'école, toutes les questions qui sont posées autour de la présence communautaire à l'école, autour du voile, autour de la reconnaissance des cultures d'origine, toutes ces questions se sont posées par rapport à un élément central qui était « Allons-nous attaquer, défendre ou remodeler le caractère républicain de l'école, c'est-à-dire le caractère public de la structure de l'école ?» Aujourd'hui, dans cette espèce de cacophonie, les débats sont complètement pipés parce qu'on a fondu l'idée de la démocratie avec l'idée de la République. Mais ça, on l'a oublié, évidemment, puisque on vit beaucoup la République et très peu la démocratie. Et bien, de la même façon, à l'école, on vit beaucoup la transmission, on vit beaucoup l'instruction et on vit assez peu l'éducation.